Et puis voilà, depuis quelques années, mais j'en dirai un peu plus tout à l'heure. Donc on est maintenant dans un projet plutôt missionnaire de l'autre côté dans le Chablais français. Et le passage du coup que je vais aborder ce matin est lié aussi à ce projet missionnaire, enfin où notre projet missionnaire découle du passage qu'on va voir ce matin. En fait, j'ai choisi un passage qui, comment dire ça? Il est unique dans les évangiles, donc il se situe dans Luc au chapitre 10, et en fait, il nous parle des septante. Vous avez déjà entendu parler de ce passage, j'imagine. Donc les septante, en fait, c'est à un moment donné où Jésus choisit 70 autres disciples, et il les envoie en mission. Et ce passage, moi j'aime beaucoup, parce qu'il est à la fois encourageant, mais aussi un petit peu défiant, comme ça. Donc ce matin, voilà, peut-être certains seront un petit peu bousculés, peut-être certains seront encouragés, peut-être les deux. En tout cas, ma prière, c'est que ce soit les deux et de voir ce que le Seigneur a en réserve pour vous ce matin, je trouve super. Donc je vous propose donc de le lire. Donc c'est donc Luc chapitre 10. On peut même commencer déjà à la fin du chapitre 9. Dans vos Bibles, là, c'est la page, j'ai regardé, 1161. 1161. Voilà. Donc, on va dire dans ce chapitre Luc, à partir du verset 57 du chapitre 9. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: Suis-moi. Il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit: Laisse les morts enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit: Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. Et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera pas, où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Je continue au verset 17, au verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les septante revinrent tout joyeux et dirent: Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers les disciples et leur dit en privé, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. En effet, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et eux, ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est un texte assez long, mais qui est fascinant, je trouve, par ce qu'il contient, par ce récit où on se demande voilà, à quelle mesure on peut se l'appliquer aujourd'hui. Est-ce que c'était quelque chose de contextuel? Est-ce que c'est quelque chose qui doit nous instruire? Donc je pense que oui. Et donc ce matin, je propose trois points très faciles à souvenir, 3M. Je crois qu'il y a du scotch, non? Ça s'appelle 3M, une marque. Donc 3M, le premier, la mission. Le deuxième, c'est la moisson. Et le troisième, c'est... voilà, c'est le message. Voilà. Donc la mission, le moisson et le message. Alors si on commence avec la mission, donc on voit qu'ici, ce texte est très stimulant. Luc, c'est le seul à le raconter dans les quatre évangiles. Il y a aussi un autre passage où on voit que, et d'ailleurs c'est juste avant dans l'évangile de Luc, où Jésus a déjà envoyé ses douze, deux par deux, et là maintenant c'est les septante. Peut-être certains ont vu cette émission, enfin cette série télévisée sur la vie de Jésus qui s'appelle The Chosen. Certains ont vu, ouais, je vois quelques-uns qui hochent la tête. Donc il y a un épisode sur, en tout cas l'envoi des douze, où c'est très beau, où après ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont vécu. Et ici, on voit que Jésus il nomme sept autres disciples pour les envoyer dans une situation pratique. Il y a aussi un jeu télévisé que j'ai vu quelques bouts, mais qui s'appelle Pékin Express. Certains ont déjà vu ce jeu. Donc en fait, Nadia, visiblement, elle l'a vu. Ah oui, je crois que c'était Itch et les shows. Hein. Non ? Ouais, c'est ça. Et donc Pékin Express, si mes renseignements sont bons, donc c'est aussi des binômes et ils ont des objectifs à remplir. Donc ils sont en quelque sorte envoyés pour remplir ces objectifs et ils ont 1 euro par jour. Et ils doivent se débrouiller avec 7 euros par jour pour aller de lieu en lieu. Souvent, c'est des grandes villes ou des territoires assez étendus. Et aller chez l'habitant, parce qu'avec 1 euro par jour, on peut pas vraiment se payer une chambre telle confortable. Et du coup, ils doivent recevoir le gîte et tout ça. Et au fait, l'inventeur de Pékin Express, finalement, c'est Jésus. Là, hein. On voit que Jésus, c'est lui qui envoie le premier ses disciples deux par deux et leur dit, allez de village en village et cherchez, on va le voir justement, c'est la mission que Jésus donne. Donc il leur dit, d'abord ne prévoyez rien, hein. Donc pas de valise ou pas d'argent ou comme ça, il ne faut rien prévoir, rien prendre avec. Il faut pas perdre de temps aussi, pas saluer les gens en passage, parce que bon, en Moyen-Orient, quand on commençait à saluer les gens, ça prenait beaucoup de temps, donc il y a une mission à remplir. Le temps est limité aussi, il y a certaines urgences. Rentrez dans les maisons, et en entrant dans les maisons, vous avez remarqué cette salutation, que la paix soit sur vous. Et si on trouve ce qu'on appelle parfois l'homme de paix, celui qui a acquis cette paix, ben, il faut y rester. Il faut y rester. Et puis aussi ne pas avoir honte de ce qu'on va vous donner. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, les consignes sont pas mal claires. Et justement, il faut pas, j'ai dit, aller de maison en maison. Mais en fait, il faut rester dans cette maison. Il faut pas aller de maison en maison, dit Jésus plutôt. Et dans partout où on vous accueille, mangez ce que l'on vous donnera, guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et dans les villes où on ne vous accueille pas, ce qu'il faut faire, donc là, c'est cette image un peu forte hein, dans le Moyen-Orient, il faut secouer la poussière qui est sous vos sandales. C'est qu'il ne faut même pas garder ça de ces gens-là, voilà, ils ne le méritent pas si on ne vous accueille pas. Mais sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, Jésus, ça c'est un peu les consignes du jeu, hein, de la mission. Il les envoie deux par deux. Et puis après, il dit, mais il y aura des joies et des défis sur la route. Si on commence avec les défis, je ne sais pas si vous les avez repérés dans le texte. Hein, ça nous permet un peu de reparcourir le texte. Moi, j'ai repéré un premier défi, c'est quand il dit, la moisson est grande. Et là, il y a beaucoup de travail, en fait. Il y a beaucoup de gens à rencontrer. L'ampleur de la tâche est grande. Et il peut y avoir un certain écrasement. Un autre défi, c'est celui de devoir vivre dans une certaine dépendance, même une dépendance assez totale, hein, parce que vu qu'ils ne doivent rien emmener, ils sont vraiment dépendants de Dieu et dépendants de l'accueil qu'on leur donnera, matériellement. Notamment. Un autre défi, c'est celui du rejet du message. Hein, que Jésus les prépare, il leur dit, il y a des endroits où vous ne serez pas accueillis. Et là, il y aura même déjà une question identitaire, hein, si on ne se fait pas accueillir, peut-être ça vous est déjà arrivé. Heureusement, avec Rafik, ce n'était pas le cas quand il est arrivé. Il s'est senti accueilli, mais si on ne se sent pas accueilli, et aussi après, si on est livré à soi-même alors qu'on n'a rien, il peut y avoir des difficultés, en tout cas de la solitude. Et Jésus parle même au milieu des loups, hein. Il parle aussi des loups. Il les envoie au milieu des loups. Donc il peut y avoir vraiment une opposition. Donc dans les défis, il y en a peut-être encore qui sont cités, mais je relève cela. Et il y a aussi des joies. Alors quelles sont ces joies dans la mission? Et parce que vous avez vu à la fin, les disciples, ils reviennent tout joyeux. Ils ont été au charbon, là, comme on dit. Ils ont accepté la mission que Jésus leur avait donnée et ils reviennent tout joyeux. Donc c'est quoi ces joies qui sont là quand on rentre dans la mission que Jésus nous propose? La première, en fait, il faudrait presque que je vous fasse bosser, mais allez, j'ai préparé, donc je vais vous le donner. Donc, la première, c'est la joie de moissonner. Il y a une moisson qui est prête, et il rentre dans cette joie de finalement simplement cueillir. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un verger, enfin, certainement. Si un pommier ou un arbre fruitier, on a juste à se servir, c'est prêt, en fait. Ça nous est arrivé la semaine dernière, je ne savais pas qu'il y avait des orangers en France. Certains savent ici. Je pensais que ça ne poussait pas en France, mais on était dans le sud de la France, il y avait un oranger. Et là, il suffisait de se baisser pour cueillir les oranges qui étaient à terre, qui étaient mûres. On aurait aussi pu se servir, mais il y en avait des belles par terre. C'est la joie de se servir de quelque chose qui est là, qui est préparé. Il y a une autre joie aussi, c'est de trouver et d'être accueilli par cette personne qui est prête à entendre l'évangile. Cette personne parfois qu'on appelle la personne de paix qui accueille le message. Il y a une joie aussi simplement de rentrer dans ce que le Seigneur a prévu pour nous en tant que mission. On lisait avec ma femme et l'équipe là-bas le psaume 119 récemment. Et puis... Donc le psaume 119, vous le connaissez, c'est le plus long. Et puis, il y a plein de fois, « Heureux celui qui garde mes commandements. » Et « Heureux celui qui marche hein, selon les instructions que je lui donne. » Et c'est magnifique, là, parce qu'au fait, il y a une joie d'obéir à l'ordre de Jésus. Pour ses disciples, c'est flagrant. L'ordre de Jésus d'aller vers les autres. Et puis au final, il y a bien sûr il y a la joie des victoires. En fait, il voit des guérisons, il voit des démons qui s'en vont, qui fuient devant eux. Et il voit aussi les effets que ça fait, la paix, le salut qui rentre dans les maisons. Ça, c'est pas marqué dans le texte, mais on peut se l'imaginer. Ils restent dans une maison, ils habitent avec les gens, ils parlent de Jésus, ils parlent du royaume, ils parlent de la vie nouvelle. C'est totalement incroyable. totalement magnifique. Et ils rentrent dans leur vocation, dans leur appel des disciples. Je pense que cette joie est là, quand finalement on trouve ce pourquoi on a été fait, ce pourquoi on est des disciples, en fait. On rentre dans cette identité, cette mission, il y a la joie. Donc il y a des défis, il y a des joies. Et Jésus, voilà, dans cette mission, et je termine là ce premier point, il dit « Maintenant, allez-y. » C'est hyper intéressant parce que là, quand je préparais ça, j'ai trouvé ça... Souvent, on utilise ce verset dans les rencontres de prière, vous savez. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie. » Et donc, on prie ça, voilà, « Seigneur, envoie des gens, des missionnaires, des gens bien courageux, qui seront doués pour ça, ou qui ont le temps, ou je ne sais quoi. » Et en fait, le mot après ce verset, c'est quoi? Vous pouvez regarder les Bibles. Donc là, on est au verset, au verset 2. Le début du verset 3, il dit quoi? Allez-y. Merci. Allez-y. En fait, c'est pas juste prier, en fait. Prier et allez-y. Donc ça fait partie un peu du pack, en tout cas pour les 70, d'y aller. Allez-y. Donc c'est la mission, allez-y, dit Jésus. Donc la moisson maintenant, la moisson. Alors c'est intéressant de voir que le but de la mission finalement, ou fondamentalement, c'est la moisson. C'est qu'il y a une moisson qui est là, elle est grande. Il y a peu d'ouvriers pour la rentrée, certaines versions parlent de rentrer cette moisson. Et la première chose que Jésus dit quand il envoie ses disciples, c'est que Jésus parle de moisson. Et c'était une image forcément hyper parlante à l'époque, hein, une société très agricole. En ce moment, on parle aussi beaucoup d'agriculture, hein, mais pour d'autres raisons. Le salon d'agriculture vient d'ouvrir d'ailleurs en France, et puis Macron ne s'est pas fait très bien accueillir, visiblement. Mais on voit que c'est... En tout cas, à l'époque, c'était un sujet vraiment courant, commun. Et Jésus dit que cette moisson, elle est grande. Et que là, il y a un encouragement et un défi à la fois, c'est d'aller dans cette moisson pour moissonner. Et il dit justement de prier et d'aller. Il dit aussi que c'est urgent. C'est pour ça, il dit, ne perdez pas du temps en chemin. Dans des discussions, des salutations qui vont être un petit peu stériles, mais aller à l'essentiel. Il y a un temps limité. Et ça fait penser aussi que la moisson, même dans la vie courante, hein, moi je suis petit-fils d'agriculteur, donc je n'ai pas connu ça de très près, mais on sait très bien quand la moisson est prête, on voit les tracteurs, même le dimanche quand il y a des prévisions de météo, de pluie, tout ça. Voilà, il faut y aller en fait. Il faut moissonner avant que la pluie vienne ou que les conditions se détériorent. J'espère pas dire trop de bêtises, il y a des agriculteurs ici dans cette salle. Et ça fait penser aussi à cette image de moisson. En fait, Jésus utilise plusieurs fois la moisson. Il y a un autre passage assez célèbre dans Jean 4, verset 35. Peut-être certains connaissent, où Jésus, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Ça veut dire que c'est prêt, en fait. La moisson, elle est prête, elle est là. Il n'y a pas à attendre encore la moisson. Moi, j'aime beaucoup cette idée, ça m'encourage beaucoup, en fait, me dire... Parfois, on est dans l'idée, ouais, les gens, ils ne sont pas trop intéressés par l'Évangile, hein, parce que quand on parle de moisson, c'est ces personnes qui sont mûres pour accueillir l'Évangile et la paix et le salut et la délivrance. Et parfois, on dit, ouais, les gens ne sont pas trop intéressés, ou parfois, ils sont anti et tout ça. Mais en fait, Jésus ne dit pas ça. Jésus dit, il y a une moisson, elle est prête, levez les yeux, regardez la moisson et allez-y. Priez et allez-y. Donc moi, ce que je vous propose dans ce deuxième point, la moisson, ce que je vous suggère, c'est qu'il y a une moisson qui est prête. Hein, c'est pas comme si toi, t'es moissonné du temps de Jésus, et puis là, les champs, il n'y a plus rien. Non, il y a une moisson qui est là, elle est blanche, elle est prête. Et je vous suggère aussi que cette mission qui nous donne d'aller dans la moisson, ben, elle s'adresse à nous tous. Et on va le voir, si vous n'êtes pas encore convaincus, plus fortement juste après. Et nous, c'est ce qui nous encourage trop hein, dans ce projet missionnaire-là dans le Chablais, c'est qu'on se dit, il y a une moisson qui est là. Et Jésus nous demande de prier et d'y aller. Donc c'est une invitation que je vous fais ce matin de croire qu'il y a une moisson qui est là, elle est prête. Il y a quelques semaines, non, peut-être 3 semaines, je dirais, 4 semaines, on était ici à Renan, merci hein, de prêter vos locaux, plusieurs étaient là aussi. Enfin, je ne sais pas, ouais, peut-être quelques-uns. En tout cas, il y avait un séminaire avec les Fritsch, Jean-Marc et Martin Fritsch. Ils nous ont vraiment encouragés à fond d'aller dans la moisson, hein, de témoigner de nos vies, de nous intéresser aux gens. C'était trop beau. Et ils nous ont parlé aussi de cette moisson. D'ailleurs, ce verset Jean 4, 35, la moisson est prête, ils l'ont utilisé pour nous encourager. Promesse de Jésus, y croire. Donc la mission, la moisson, on arrive au message. Troisième point, le message. Et c'est intéressant de voir ici dans ce passage, c'est que le message est accompagné, enfin, il y a un message, on va dire, oral, avec du contenu, mais aussi une vie partagée. Il y a aussi des effets de ce message. Ce n'est pas juste une proclamation comme bah, je peux le faire maintenant de quelque chose, mais c'est un message qui est incarné. C'est un message aussi où on voit la différence de ce qui se passe. Donc, le message ici principal, on pourrait le résumer peut-être en un mot, c'est la paix. Hein, annoncer la paix, là, quand vous rentrez dans les maisons. Et ça, c'est très beau de se dire, en fait, Jésus, il vient pour apporter la paix. Déjà, les anges, hein, ils le chantent, hein, paix sur terre, paix sur la terre. Et nous, on a un message de paix en tant que disciples de Jésus. Dieu, il veut faire la paix fondamentalement avec ses créatures qui se sont rebellées contre lui. Et il veut faire la paix, apporter la paix avec lui et la paix avec nos semblables. Il y a cette notion de restauration dans les relations, donc paix dans les relations et aussi paix intérieure. Il y a aussi associé à ce message de paix, hein, il y a le fait de chasser les démons et guérir les malades. Et c'est très intéressant parce que Jésus, en fin de compte, quand les disciples ils reviennent tout joyeux, ils disent, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus dit, super, je paraphrase, c'est super, et vous avez raison de le constater, c'est vrai, mais réjouissez-vous de quelque chose de plus fondamental. Et c'est quoi? C'est que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous avez la paix, vous avez la vie, ça c'est le plus important. Vous focalisez pas sur les signes, bien que les signes sont importants. Hein. Parfois nous, dans nos milieux, on dit oui, mais bon, faut faire attention, c'est un peu charismatique, ces choses-là. Non, non, en fait, les signes attestent du message et les démons existent bel et bien. Mais le plus important, voilà, c'est cette paix que nous avons en Jésus. Et le royaume de Dieu s'est approché. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est marqué, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, donc sur Jésus. Et tous ceux qui acceptent par la foi Jésus et ce qu'il a fait à la croix ben, peuvent être au bénéfice de cette paix. Je ne sais pas bien ce qu'ils ont dit, parce qu'ils sont restés plusieurs jours, en fait, les binômes chez les gens, parce qu'il n'y avait pas encore eu la croix, hein, donc on pourrait se poser plein de choses. Mais en tout cas, ils avaient vécu avec Jésus déjà un certain nombre de temps. Il y avait les prophéties de l'Ancien Testament, et ils savaient que fondamentalement, le royaume s'approchait, et que le royaume était accessible maintenant. Et que c'était possible d'être réconcilié avec Dieu et de recevoir la paix. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, on a un message encore beaucoup plus clair à apporter, hein, parce qu'on a la révélation complète, on connaît la croix, on connaît les effets du sacrifice de Jésus dans l'histoire et dans nos vies. Donc on a vraiment quelque chose à partager. Okay, je termine. Donc, c'était la mission, la moisson et le message. beaucoup de choses à dire hein, sur ces points-là encore, mais dans les applications, on pourrait même parler d'un quatrième point, d'un quatrième M, c'est le mouvement. Ça nous met en mouvement, en fait, ces choses-là. Parce que si ça reste stérile, ben voilà, c'est comme Jacques, hein, on se regarde dans un miroir, on a lu la parole, et puis finalement on oublie, et puis jusqu'à dimanche prochain. Et le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage? Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce passage? Voilà, vous pouvez réfléchir juste quelques instants. Moi, j'ai tiré deux, trois applications. Donc, déjà, est-ce qu'il s'applique à nous? Et s'il s'applique à nous, ben, qu'est-ce que je peux en faire? Alors, la première chose que j'aimerais dire ou nous encourager, c'est qu'on est tous en mission. En fait, ce n'est pas juste un texte historique, qui est un peu un exercice, Pékin Express, Jérusalem Express, Galilée Express, là je crois qu'ils étaient en Galilée encore, où ils partaient juste. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? Bon, il y a plusieurs choses. Hein, quand Jésus part, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Donc déjà là, on a un gros indice, hein, ça c'est le gros mandat, on sait que c'est quelque chose qu'on est amené à faire en tant que disciple. Un disciple se manifeste par le fait qu'il partage sa foi. Mais ici, il y a quelque chose de fort dans ce texte. Est-ce que quelqu'un voit qui dit ça s'adresse à nous? Il y a une symbolique là, assez forte. Alors pas tous les commentateurs sont d'accord, mais moi je suis d'accord avec ceux que je vais dire là. C'est le chiffre. Pourquoi 70 autres disciples? On se dit, mais c'était 12. Bon, on sait qu'il y a d'autres qui gravitaient autour, mais là, c'est 70. Et 70, en fait, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. Déjà, on connaît le 7, le chiffre parfait. Mais 70, c'est un chiffre qui représente l'entier. L'entier. Et c'est comme si Jésus disait, en fait, c'est pour tous les disciples, c'est toute l'Église qui est concernée. C'est pas juste les 12, c'est pas juste moi, c'est pas juste Pierre, Paul, Jacques. Et en fait, c'est pas réservé à une élite non plus. Le 70 représente vraiment une totalité de ceux qui œuvrent pour Dieu, la totalité de son peuple. Et nous sommes tous en mission. Et aussi, pourquoi nous sommes tous en mission? Parce que nous habitons tous la moisson à quelque part. Quand Jésus dit que la moisson est prête, en fait, c'est les gens qui sont autour de nous. On habite parmi la moisson et notre mission, ben, c'est d'être en contact avec eux et de voir qui est prêt, qui va accueillir cette paix, à qui est-ce que je peux annoncer cette paix. Donc tous en mission. Aussi, comment effectuer la mission? Je discutais avec mon papa, donc du coup certains connaissent ici, hein, je vois. Pardon, c'est Ernest. Donc Ernest et Doris sont arrivés, moi j'étais pas encore né au Portugal, en 1974, sauf erreur. D'ailleurs, il habitait au Portugal avec Francie, je crois. Hein. C'est juste, hein, il y a quelques années. Et enfin, dans ces années-là. Et puis, donc, au Portugal, il me racontait que les premières années, en fait, il n'y avait pas de culte le dimanche. Il faisait un rassemblement le samedi, samedi soir. Et le dimanche, c'était sortie d'action. Donc, ils venaient avec leur vélo ou leurs automobiles, pour ceux qui en avaient. Et l'objectif, c'est que c'était pas de se rassembler, mais c'était d'aller, en fait. Ils allaient évangéliser, faire je pense, du colportage et toutes sortes de choses. Ça, c'était au début. Donc c'était vraiment des sorties d'action. Est-ce que certains ont connu ça ici, peut-être en Suisse? Ouais, une sortie d'action, ouais, quand même, quelqu'un. Ouais, quand même. Et on devrait recommencer, n'est-ce pas? Une sortie d'action. Et au fait, voilà, ça correspondait à une époque, et probablement ce sera encore bon aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule façon de faire. D'ailleurs, là-bas, après, ils ont modifié, ils ont fait autrement. Mais le principe est hyper bon, je trouve. C'était l'action biblique, parce qu'ils avaient compris que leur identité, c'était d'aller dans la moisson, et c'était pas forcément uniquement de se rassembler, mais c'était d'aller vers les gens et d'annoncer cette paix de Jésus. Je ne sais pas comment vous faites, vous, actuellement, pour être dans cette moisson et pour accomplir la mission de Jésus. Mais il y a des choses où on peut vraiment s'encourager à le faire. Nous, on a créé une petite rencontre mensuelle qui s'appelle Famille en mission, on appelle ça du côté du Chablais, et on se partage un peu les trucs. Vous savez, comment est-ce que je peux annoncer l'évangile à mes voisins? Comment est-ce que je peux être un témoin de Jésus? Comment est-ce que je peux créer du lien, former des disciples? Donc on se donne des petits trucs. Un des petits trucs là que nous on aime trop faire en famille, en tout cas partiellement en famille. Les enfants sont souvent motivés au début, après pour aller au bout c'est un peu plus compliqué, mais c'est Nouvel An. Bon, là c'est passé, mais je vous donne l'idée pour l'année prochaine peut-être. Nouvel An, nous on aime trop cette période-là parce qu'en fait les gens sont à la maison en général, donc et puis il se passe rien. Il se passe rien, les rues sont désertes, ils font un peu la grasse mat, ils ont veillé tard et ils sont bien disposés aussi. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est la nouvelle année, ils se disent voilà, tout est possible, ça va être génial cette année. Donc là, il y a une porte hyper favorable. Donc nous, ce qu'on a fait depuis 2 ans, là maintenant, c'est qu'on prépare des petites cartes pour les voisins, une petite boîte de chocolat, ou cette année, on a fait des biscuits. Et on va sonner chez les voisins. Donc c'est des gens qu'on connaît déjà, hein, la plupart. Ouais. En fait, on cible tous ceux qu'on connaît là dans le quartier, mais on commence à en connaître beaucoup. Donc, et on fait notre tournée après avec nos petites cartes, nos petits biscuits. Là, bah, cette année, typiquement, on a été, c'était hyper encourageant, on a été chez la mère du village. Et puis elle nous a carrément accueillis. Donc, je ne sais pas si c'est une personne de paix, on prie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Elle nous a dit qu'elle était athée, mais donc on a été, elle nous a fait rentrer. On a passé une demi-heure avec elle, on a discuté, c'était hyper sympa. Et voilà, dans la carte, on écrit un petit mot de bénédiction. Voilà, on ne commence pas à annoncer tout l'évangile, hein, mais un petit mot de bénédiction. On les apprécie, on aime être leurs voisins, et on leur souhaite vraiment une belle année, qu'on prie pour eux aussi. La plupart du temps, on écrit ça. Voilà, ça c'est une façon en fait d'aller. Hein. C'est un peu timide, on va dire, mais c'est déjà quand même quelque chose pour créer du lien. Jean-Marc et Martine Fritsch, là il y a quelques semaines ici à Renan, ils nous ont dit qu'il y a 50 000 personnes qui meurent par jour sans connaître Jésus. Et qu'il y a 10 personnes toutes les 18 secondes qui meurent sans connaître Jésus. Et ils nous ont aussi dit qu'il y a 98% des croyants qui ne partagent pas leur foi. Alors, je ne sais pas d'où ils ont cette stat, hein, même si c'était que la moitié, c'est quand même assez hallucinant. Et ça devrait nous mobiliser vers nous dire on est tous en mission. Comment est-ce que je peux être dans cette mission pour parler de Jésus et de la paix qu'il veut nous donner? Je me suis aussi dit dans ces applications. Je reviens à cette question de la moisson, de voir la moisson qui est prête. Jésus dit de lever les yeux vers la moisson. Et peut-être il faut revenir au fait, enfin, il faut corriger mentalement nos représentations mentales que les gens ne veulent pas de l'évangile. Parce que ce n'est pas vrai. Jésus nous dit l'inverse. Il nous dit que la moisson, elle est prête. Il y a des gens qui sont prêts. Pas tous, mais certains sont prêts. Et par la foi, c'est dire la moisson est là. Qui est-ce que tu as placé autour de moi à qui je peux annoncer la paix? Regardez avec un cœur purifié. Regardez avec les yeux de Dieu la moisson. Regardez aussi les gens qui sont autour de nous et dire, Seigneur, donne-moi ton regard face quand je rencontre mes voisins, quand je rencontre les commerçants chez qui je vais, les gens dans le tram, les gens dans, vous n'avez pas de tram ici, bus ou dans le métro. C'est quoi ton regard? Donne-moi de l'amour pour ces gens. Et de prier aussi ensuite pour, nous on les a appelés les VIP. Les VIP, c'est nos personnes, on a identifié, on en a 3 ou 4. Ça, c'est vraiment les gens qu'on a très à cœur. Et pour elles, on prie et l'amour grandit face à ces personnes-là. Tous en mission, comment effectuer la mission? Ben, y a plein de manières. J'en ai juste cité un petit exemple, mais il y en aurait plein. Mais c'est l'idée d'aller vers les gens. Et le prix de la mission, on voit que c'est pas rien. On voit à la fin du chapitre 9 qu'il y a un engagement total qui est nécessaire. Hein, vous avez vu, plusieurs veulent suivre Jésus, ils veulent, mais d'abord régler des affaires courantes. Et Jésus leur dit, mais en fait, non, il faut venir tout de suite. Là, si vous venez après moi, vous allez renoncer à un certain confort. Vous devrez recalibrer vos priorités. Et puis aussi, vos liens affectifs. C'est intéressant, hein, parce qu'il y en a un qui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, etc. Et c'est des choses, on se dit, c'est légitime. Mais ce que Jésus veut dire, c'est qu'on doit être prêt à renoncer à certaines choses, y compris à certains liens affectifs, y compris à certains conforts, un certain héritage. Aussi, là, on voit, il y a des choses matérielles. Et ça fait réfléchir aussi avec qui on passe le plus de temps. Parce qu'il y a une zone de confort, parfois avec les amis, qu'on aime bien, la famille. Mais là, il y a un encouragement que Jésus nous fait à aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, hein, prioriser ces personnes-là pour notre mission. Et qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent tout joyeux, les disciples. Ils sont joyeux d'être rentrés dans la mission. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a une joie en échange. On prie encore? Notre Dieu, merci beaucoup de t'être révélé à nous, de nous avoir apporté la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur Jésus. Et Paul, il disait que l'amour de Christ nous presse. S'il est mort pour nous, c'est afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et je te prie que cet amour nous presse d'une force qui nous met en mouvement, qui nous met en mouvement face à tous ceux qui ne te connaissent pas encore, à toutes ces personnes qui sont prêtes à accueillir l'évangile. Seigneur, je te prie ici qu'il y ait beaucoup de joie à Renan, beaucoup de joie, et il y en a certainement déjà, de voir qu'il y a une moisson qui est là, que dans cette église, on puisse s'encourager les uns les autres dans cette mission. On puisse aussi célébrer les fruits que tu vas donner, célébrer aussi le fait qu'on rentre dans ta mission. Jésus, ce n'est pas une petite affaire, toi, tu as donné ta vie pour que cette mission soit possible. Et il y a un tellement bel objectif, et je te prie qu'aujourd'hui, tu nous encourages tous de voir que cette moisson est blanche. Est prête. Au nom de Jésus. Amen.